Ça ne veut pas du tout dire que Moïse a écrit le livre du livre. bien faire attention à cette différence de sens, la manière dont peut-être la Bible parle de la prophétie n'a strictement rien à voir avec ce que l'on pourrait définir comme étant l'inspiration poétique de type, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est inspiré, en réalité, il y a là, dans cette expression, un refus, une négation de la prophétie dans le sens transcendantal, c'est-à-dire le fait que la voix de Dieu fait irruption dans la conscience d'un homme de l'extérieur de sa conscience. Dans cette expression générale, qui consiste à dire que l'homme est inspiré et que ce serait cela au plus haut niveau la prophétie, on veut en réalité nier ce que l'on se propose de dire. On veut dire au contraire qu'il n'y a pas eu de prophétie et que c'est à un certain niveau, comment dire, d'envergure de l'expression de la vie intérieure, l'identité immanente de l'homme qui s'est exprimé et qui a parlé au plus haut niveau de l'inspiration ainsi définie serait évidemment inspiration poétique. Mais cela n'a rien à voir avec la manière dont le texte de la Bible parle de la prophétie proprement dite, c'est-à-dire, encore une fois, irruption dans la conscience de l'homme d'une parole, d'un message, mais d'une parole qui se formule de l'extérieur de cette conscience. Ça implique bien entendu énormément de problèmes, mais si vous voulez, nous devons rester dans la cohérence des choses dont nous parlons, le postulat de cohérence de la révélation biblique, c'est qu'il faut prendre ce terme et ce processus de révélation au sérieux. Si nous prenons ce terme au sérieux, ça signifie bien évidemment que la voix que le prophète entend vient de l'extérieur de son identité. Bien. Alors, c'est pourquoi je vous dis, lorsque la Gemara dit mon cher Katar, Moïse a écrit, ça veut dire a mis par écrit. Dans la page qui suit, dans les deux pages qui suivent, la Gemara parle de tous ces problèmes. Et par exemple, nous avons l'enseignement suivant qui se retrouve aussi dans la Gemara de Sanhedrin, dans le Perek Chelet. Celui qui dit que une phrase, un verset de la Bible, c'est Moïse qui l'a écrit de lui-même, ni dans l'essentiel, et pour faire par écart, c'est-à-dire ni dans l'essentiel, le sérieux que l'on doit accorder au principe du fait que nous avons là la mise par écrit d'un texte révélé, il s'agit donc bien de mettre par écrit. Et je pense, enfin c'est une opinion personnelle, un peu sous forme de chidouche, que la Guémara de Sanhedrin a lu, lorsqu'elle dit, celui qui dit un verset a été écrit par Moïse lui-même, pensez au verset suivant, qui se retrouve très souvent, comme vous le savez, dans la Torah, et Dieu parla à Moïse. Ne serait-ce que ce verset-là, si on l'attribue à Moïse seul, alors on a mis en échec, on a nié l'essentiel du propos de la révélation. Vous comprenez l'importance du problème. Effectivement, c'est le verset le plus mystérieux de la Torah. Et Dieu parla à Moïse. Bien, alors je referme cette parenthèse. Ça signifie donc que Moïse a mis par écrit, dans la première proposition, son livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre de Moïse? Eh bien, donc la réponse la plus naturelle, la plus spontanée serait de dire, c'est le livre de la Torah, c'est le Chumash, le Pentateuque. Mais nous ne trouvons jamais dans les textes traditionnels l'expression le livre de Moïse, c'est si proche de Moïse pour définir le Pentateuque, pour définir la Torah, pour définir le Chumash. On a l'expression Sefer Torah, ou Torah de Moïse, mais on n'a jamais l'expression Sefer Moïse. Vous entendez, je pense, ça en hébreu, je le traduis, nous avons l'expression le livre de la loi, ou bien l'expression la loi de Moïse, mais on n'a pas l'expression le livre de Moïse. Alors, bien entendu, du point de vue du Pshat, c'est-à-dire de la lecture simple, Moïse a écrit son livre, ça voudrait dire, a mis par écrit donc, mais ça voudrait dire, a mis par écrit le livre de la Torah. Et on pourrait peut-être retenir cette lecture, retenir cette explication. Mais dans la même phrase que je viens de vous citer, de la Gemara de Bava Batra, nous avons ce deuxième point, et aussi la paracha de Bilaam. Or, la paracha de Bilaam, c'est-à-dire le texte qui concerne les rapports entre Bilaam et Israël, se trouve dans la Torah, se trouve dans le Pentateuque. Et alors, ça ferait double emploi. Et par conséquent, ça met en échec la première lecture quant à la définition, le livre de Moïse. Puisque si le livre de Moïse était dans, je veux dire, si le livre de Moïse désignait l'ensemble de la Torah, voilà que cette paracha de Bilaam se trouve dans le livre de la Torah. Donc, il y a ici une sorte de contradiction logique qui nous empêche de traduire de cette manière. Vous savez qui était Bilaam. Bilaam a été le plus grand des prophètes en dehors d'Israël, et au temps même de Moïse.
sinon plus, suivant certaines nuances. En tout cas, disons, si vous voulez, l'envergure, la capacité de prophétie de Bilaam est aussi grande que celle de Moïse, du point de vue de la définition stricte du phénomène prophétique, c'est-à-dire capable de voir ou d'entendre, de percevoir de l'extérieur, encore une fois, de l'extérieur du monde habituel de la représentation humaine, ce que le créateur du monde dans lequel nous sommes enfermés par conditionnement, ce que le créateur a, dans l'occurrence de la situation de prophétie, à communiquer à certaines créatures privilégiées. Dans le sens de la ironie, privilégiée, ça veut dire suffisamment authentique pour pouvoir capter et recevoir cette émission permanente qu'il y a entre le créateur et la créature. Du point de vue de cette définition d'envergure poétique, Bilaam est aussi grand que Moïse, disons. Mais il n'est pas le prophète de la Torah. Nous verrons quelle est la différence, elle est très importante. Capable de percevoir la signification de ce que Dieu a à dire, mais non pas capable de recevoir la Torah. Mais en tout cas, ce que Bilaam avait à prophétiser, avait à exprimer de ce que lui-même a capté en tant que prophète des nations concernant l'histoire d'Israël et concernant la relation, le rapport entre l'histoire d'Israël et l'histoire des nations, se trouve aussi dans la Torah. Et nous avons là, en tout cas sur ce deuxième point, une première définition possible pour l'ensemble de cette citation. On nous dit que Moïse est capable de trois sortes de prophéties. Celle que l'on dénomme comme étant la prophétie de son livre, je n'ai pas encore défini son livre, mais deuxièmement, capable de la prophétie de Bilaam. C'est très important à savoir, et du moins, en tout cas, à comprendre, que Moïse est capable d'avoir dans sa propre prophétie à lui la prophétie de Bilaam. Et elles sont de nature différente, en ce sens que Bilaam est le prophète des nations, et qu'il perçoit ce que Dieu dit de l'identité d'Israël du point de vue de la prophétie de l'identité des nations, alors que Moïse perçoit ce que Dieu dit d'Israël du point de vue de l'identité d'Israël. Et le fait que Moïse soit aussi capable de la prophétie de Bilaam, c'est très important à comprendre. Et vous devinez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas là seulement une sorte d'équation personnelle spécifique de l'identité hébraïque captant la révélation, mais cette identité hébraïque est aussi capable de capter la révélation telle qu'elle passe chez les non-juifs, telle qu'elle passe chez les Goïms. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'universalité qui intervient par le seul fait que nous apprenons que Moïse est aussi capable, non seulement de sa propre prophétie, que l'on n'a pas encore définie, mais est aussi capable de la prophétie de Bilaam. Et puis, troisième point, il a mis par écrit le livre de Job. Il y a là un terme considérable. Si peut-être cette question vous intéresse par la suite dans le débat, nous y reviendrons en détail. Je veux pour le moment schématiser. Job, le livre de Job est attribué donc, la mise par écrit du livre de Job est attribuée à Moïse. Et ça signifie que finalement le livre de Job a été le premier livre à être mis par écrit avant même la Torah. Cette citation que je vous donne, ce texte que je vous cite, nous fait comprendre qu'il y a une mise par écrit de la révélation à travers Moïse, avant même la Torah, et que Moïse a mis par écrit le livre de Job. Alors, du point de vue formel, ça signifie donc qu'il est aussi capable de la prophétie telle que Job la reçoit, mais c'est très important de découvrir et de mettre en évidence ce fait, avant que la Torah ne soit révélée, il existait déjà la sagesse de Job. Il y a dans une autre Gemara, la Gemara de Shabbat, un enseignement extrêmement important, que finalement, vous savez que la tradition juive n'a jamais beaucoup aimé les traductions de la Bible. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Kol Kitvei HaKodesh, c'est bien ça, c'est le chapitre 15. Oui, le chapitre Kol Kitvei HaKodesh, qui est le chapitre de la Gemara de Shabbat, qui est consacré à ce problème. Est-ce qu'on a le droit de considérer comme révélé, comme autant authentique, une traduction des livres révélés, une traduction des Kitvei HaKodesh? Est-ce que, si vous voulez, le livre d'Isaïe, traduit en français, garde toujours la valeur du livre de l'Isaïe, tel qu'il a été donné en hébreu? Est-ce que la Genèse, est-ce que l'Exode, est-ce que le Chumash, est-ce que la Bible en général, c'est encore la Bible lorsqu'elle est en français? Il y a d'ailleurs, vous savez, un des rabbins du Talmud qui s'appelait Rabbina. Ne pas confondre avec la Bible du rabbin. Et l'opinion de Rabinat, vous voyez, dans le problème, c'est que la halakha, c'est-à-dire la règle, c'est qu'on n'aurait pas le droit du tout de traduire le texte du Lashon HaKodesh, de la langue dans laquelle il a été révélé, dans une autre langue. Finalement, tolérance à tolérance, de telle sorte que la sainteté du livre de la Bible puisse quand même, autant que ce peut, être communiqué à travers les autres langues, soit aux juifs directement, soit aussi aux autres hommes, finalement de tolérance à tolérance, on a permis d'établir les traductions de la Bible. Mais la règle hermétique est très claire, on ne prend pas ces traductions de la Bible au sérieux. Le seul texte qui est véritablement fait foi, c'est le texte originel en Lashon HaKodesh. Mais en tout cas, toutes ces tolérances sont données, sauf pour le livre de Job. Comme si la Gemara veut nous faire comprendre que ce que Yov Targum, c'est pas soumis, c'est pas caché. Alors je vais essayer d'abord d'éclairer cela. Tous les livres de la Torah du Tanakh, tous les livres de la Bible à la rigueur, on pourrait les mettre dans une autre langue que l'hébreu de la révélation s'il y a une nécessité quelconque à ce sujet, mais en tout cas, sort le livre de Job. Pourquoi? Eh bien parce que le livre de Job pose une question de la sagesse très précise et très importante. C'est le problème de la relation entre l'histoire et la morale. La question du livre de Job, c'est pourquoi existe-t-il ce scandale du juste qui souffre? Il n'y a donc pas de cohérence entre la structure du monde, de l'histoire du monde, là où se passe la souffrance ou le bonheur, et d'autre part, la vertu morale. Et s'il n'y a pas de cohérence entre la vertu morale et l'histoire naturelle, si j'ose dire, de l'homme, alors tout est en question. Vous comprenez? C'est le problème le plus grave qui se pose à l'intérieur de la révélation, c'est la question du livre de Job. D'ailleurs, un des midrashim de la Gemara, qui se trouve dans la Gemara de Brachot, page 7, si je me souviens bien, eh bien, dans la Gemara de Brachot, la Agada du Talmud nous dit que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, il avait une seule question à poser à Dieu, et il l'a posée. Et cette question, c'est la question de Job. Et c'est pourquoi il y a Tzadik v'Ra'o, Tzadik v'Torlo, Rachar v'Ra'o, Rachar v'Torlo, ce qui signifie pourquoi peut-il exister dans le monde cette quadruple anomalie, un juste qui a du bonheur, mais aussi un juste qui a du malheur, un méchant qui a du bonheur et un méchant qui a du malheur. Mais c'est la question de Job, dans toutes ses dimensions. Et ça signifie alors finalement que le monothéisme n'aurait pas de base. S'il n'y a pas d'homogénéité entre la morale et l'histoire, alors il n'y a pas un Dieu unique, alors il y a plusieurs souverainetés qui se partagent le monde dans lequel nous sommes de façon multiple, nous sommes insérés de façon multiple, c'est-à-dire d'une part le monde des valeurs morales et d'autre part le monde de l'histoire court, de l'histoire pure et simple, le monde de la nature. Et s'il n'y a pas d'homogénéité entre la structure du monde des valeurs morales, donc le monde du mérite, et d'autre part le monde de la création, de ce qui nous arrive dans la réalité de la vie, alors toute la révélation du monothéisme est mise en échec. Voyez l'importance de la question de Job. Alors nous dire que Moïse a mis par écrit le livre de Job, ça veut dire qu'il était capable de la sagesse de Job. Et c'est frappant de voir de nouveau dans les mois de Brachot que je vous ai cité, que la cohérence du Midrash reprend la même idée et dit cela. Lorsque Moïse est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah, il s'est dit, je vais en profiter, puisque j'ai rendez-vous avec le bon Dieu, je vais en profiter, je vais lui poser la question essentielle. Et la question qui se pose alors, avant même d'avoir à recevoir une Torah, c'est la question de Job. Et voyez pourquoi, dans la Gemara de Shabbat, on veut nous faire entendre que le livre de Job ne peut être cachère qu'en hébreu. Parce qu'il s'agit là de la sagesse antérieure à la révélation de la Torah. La question de Job se pose avant qu'une Torah ne soit révélée. Est-ce que c'est bien clair? Par conséquent, si la question de Job est formulée dans le langage de la sagesse antérieure à la révélation de la Torah, c'est un livre impie. S'il est formulé en hébreu, c'est-à-dire dans le langage de la Torah, alors il redevient cachère, c'est-à-dire c'est une question intérieure au monde de la Torah. Job dit par Moïse, ce n'est pas la même chose que Job dit dans une autre langue que la langue de la révélation à Moïse. Bien, alors, jusqu'à présent, nous avons éclairé ces deux points. Que signifie formellement le fait que Moïse soit capable de la prophétie de Bilaam, qui est lui le prophète des nations? Et d'autre part, le fait que Job soit capable, pardon, que Moïse soit capable de la capacité prophétique de Job. Il nous reste toujours la première des expressions, Moshe Katav Tifo, c'est-à-dire Moïse a écrit son livre. Mais je vais vous donner une réponse à cette question qui me semble précisément poser ce problème que nous sommes posés au début, la définition de notre sujet ici, c'est l'identité de Moïse, en tant que l'identité de Moïse est exemplaire de l'identité d'Israël, en tant qu'Israël a été le peuple qui a reçu la Torah, ou en tant que Moïse a été le seul prophète qui a pu recevoir la Torah. C'est son livre de Moïse, eh bien c'est une toute petite paracha qui se trouve dans le Bémidbar, c'est-à-dire dans les Nombres, et qui est la paracha de Be'alotecha. Je vais vous dire plusieurs manières d'approcher cette définition. Cette paracha, je vous dis donc l'idée générale, il faut pouvoir le définir par rapport à cette expression ici de la Gemara. Première examen. Dans le Gemara de Shabbat, dans le chapitre que je vous ai cité tout à l'heure, de Kodesh la Kodesh, on essaye de donner la définition de la quantité de révélation minimum pour qu'il y ait encore que du chat dans un Sefer Torah. Je veux dire, la quantité minimum de révélation pour qu'il y ait sainteté dans un livre qui a été le véhicule de la mise par écrit de la révélation. Et la Guimarães a dit qu'il faut au moins 85 lettres. Voilà quel est le cas. Imaginons un Sefer Torah tellement vieux, tellement ancien, qui a tellement voyagé dans tous nos voyages, que d'une par une, les lettres ont commencé à s'effacer, ce qu'a fait les études dans lesquelles ils font l'histoire, le nombre de paris effarants qui sont en train de chanter, et bien, qui ont été rapatriés dans toutes les communautés de Jésus. Et bien, alors, la Gemara pose la question, quelle est la quantité minimum de Kedusha du point de vue du nombre de lettres? Il dit 85 lettres. Et 85 lettres, pourquoi? Parce que c'est exactement le nombre des lettres de cette petite paracha de Vayi Bin Sora. Par conséquent, on pourrait avoir une définition d'un sefer minimum, le sefer de Vayi Bin Sora. Or, c'est le livre qui nous raconte l'envergure de Moïse en tant que Moïse est capable de remplacer Jéthro. Et voici quel est le problème. Vous remirez donc cela avec ce que nous avons appris de la relation entre Jéthro et Moïse à propos de Midian. Et voici quel est le problème. C'est que dans ce passage de l'Égypte à Israël, il y a une médiation, il y a un intermédiaire qui est le désert. On ne peut pas passer de l'Égypte à Israël directement, semble-t-il. Il faut passer par les différentes étapes du désert. Et vous savez à quel point la Torah définit quelles sont ces étapes. Elle nous donne le nom de toutes les halles, comme si nous avions là une Michelin. Comment faire pour passer de l'Égypte à Israël? Il y a tant de massaot, tant d'étapes à parcourir. On parle de ce point pour arriver à ce point, on reparle de ce point pour... Vous connaissez ces textes? Bon. Eh bien, Moïse avait demandé à Jéthro d'être le guide d'Israël dans cette exploration du chemin pour passer de l'Égypte à Israël. Vous voyez comment, en langage symbolique, c'est extrêmement important, c'est extrêmement profond. Il y a un certain itinéraire qui a été exploré par Jéthro, et Moïse demande à Jéthro de servir de guide à Israël dans le passage de l'Égypte à Israël, au pays d'Israël. C'est-à-dire, cette espèce de néant qui est entre ces deux êtres, l'être disqualifié, celui de la Galoute, et l'être auquel on doit accéder, celui de la délivrance, entre ces deux êtres, il y a un néant qui est le désert, et ce passage à travers le néant, il faut un guide. C'est selon le récit de la paracha, l'opéra justement, ce guide de l'air Jéthro. Mais à un certain moment, Jéthro décide de quitter Israël, de quitter Moïse, de rentrer dans son peuple, de s'occuper du destin de son propre peuple, et voilà que tout.
le monde est désemparé, il n'y a pas d'outil pour les États dans le désert. Alors, c'est là que Moïse va être défini comme ayant une capacité propre, qui est proprement d'ailleurs liturgique, de pouvoir invoquer à chacune des étapes nécessaires, de pouvoir invoquer la révélation directement de la part de Dieu, pour que Dieu indique quand est-ce qu'il fallait décamper, lever le camp, et quand est-ce qu'il fallait faire halte. Pour que Dieu lui-même indique chacune de ces étapes. Et on voit Moïse avoir cette force de pouvoir. À chaque moment demander à Dieu l'ordre des étapes. Donc ici, ce livre de Moïse, 85 lettres, on applique à Moïse ce verset va t'arriver, ou Nerat Meleokim, lorsque le verset de Psaume définit la différence qu'il y a entre Dieu et l'homme, le verset dit que Dieu a fabriqué, créé, si vous voulez, l'homme. Comme étant d'un petit peu inférieur à Dieu. Va t'arterer ou mérat, néoc. Tu lui as donné un peu moins que ce qui fait un Dieu. C'est cela l'homme. C'est aussi un thème pour lui-même qui est extrêmement profond. Comme si l'identité humaine était condamnée à être toujours, comment dire, asymptotique à son propre modèle. Si elle accepte le modèle, alors, c'est pas sérieux, c'est du mauvais goût de faire semblant d'accéder au modèle. C'est se prendre pour Dieu. Et justement, on applique ça à Moïse, parce que la valeur numérique du mot Dieu, comme vous le savez, du mot Dieu en hébreu d'Élohim, c'est 86. Et puis voilà, la capacité divine du mot de Moïse, c'est de 85. Regardez comme c'est joli. C'est bien. Ça veut dire juste un petit peu moins que la présence divine elle-même. C'est la capacité divine de l'homme, celui qui est allé le plus loin dans cette approximation du modèle, c'est bien entendu Moïse, qui est nommé Ish Ha'Elohim, l'homme de Dieu. Le Midrash dans le Midrash de Vesotabracha, en parlant de cette expression de Moïse, tout le Midrash de Vesotabracha est consacré à un dialogue entre tous les grands personnages d'Israël et Moïse. Et finalement, le Midrash démontre que sur chacune des vertus, Moïse est quand même plus grand que tous. Et alors, le Midrash de Zavaracha explique cette formule Isha Elohim pour Moïse, homme de Dieu, d'une façon extraordinairement violente. Il dit Chetio l'Marla Elohim, Chetio l'Umata Adam. Ce qui signifie la moitié supérieure, il était Dieu. La moitié inférieure, il était homme. Imaginez ça dans le Midrash de X. C'est un peu fort. Alors, je vous proposerai une explication de ça, sans rien changer d'ailleurs au terme. Ça veut dire Chetio, il y avait sa première moitié, et au-dessus, il y a Dieu. Puis d'autre part, Chetio, l'autre moitié, il y a Dieu. Oui, j'ai pas changé le mot. Chetio, ou le mal à Elohim, Chetio, ou le mal à Adam. Vous avez compris ce que je vous ai dit. C'est pas sa moitié supérieure était Dieu et sa moitié inférieure était homme, mais il y avait au-dessus de sa moitié supérieure, il y avait Dieu, et au-dessous de sa moitié inférieure, il y avait l'homme. C'est-à-dire qu'il a été le médiateur par excellence, en tout cas en tant que véhicule de la prophétie et véhicule de la prière, dans chacun des sens de la parole, qui est le seul lien qu'il y a entre le Dieu et la création. Bien. Et en tout cas, la capacité de Moïse en tant que substitut possible de Jéthro, c'est cela que Moïse a écrit son livre. Il est capable de la capacité de Jéthro et il a écrit la paracha de Bilam. La paracha de Bilam, il est capable de la capacité prophétique de Bilam et il a mis par écrit le livre de Job. Il est capable de la question de Job. Il est capable de la prophétie donnée à la question de Job. Voilà donc qui est Moïse d'après cette phrase. Et ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que, premièrement, ni Jéthro, ni Bilam, ni Job ne sont capables de recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la révélation à l'ensemble, à la totalité du problème de l'homme. Mais chacun de ces trois grands personnages, Job, Bilam, Jéthro, ne sont capables que d'une des questions de l'homme. Alors nous allons les identifier. La question plus grand. Mais en tout cas, c'est cette question. C'est la question de la prise de conscience du sort de l'individu. Tandis que Milam, nous le connaissons d'autre part. Milam est celui qui est capable de percevoir l'expérience religieuse de la révélation sous forme brutale, indépendamment de toute morale. C'est la dimension de la communication avec le mystère, si vous voulez, mais indépendamment de toute morale. C'est l'expérience religieuse dans le sens le plus naturel, dans le sens aussi le plus païen, très paradoxalement, mais c'est l'expérience de la communication avec l'ailleurs, de la communication avec avec Dieu, mais comme un problème exclusif de ces deux autres questions, la question de Job, la morale à l'échelle de l'individu, et la question de Bilal, la question de Jethro, la question de Jethro, que nous connaissons mieux comme figure dans la Torah, et qui est celui qui est préoccupé de l'organisation sociale de la morale, qui est préoccupé de l'organisation de la société. Si j'ose dire, à la limite, Job, c'est l'existentialisme. Et puis, vraiment, ce sont des limites que j'essaie d'indiquer. Bilam, c'est le socialiste. Et puis, pardon, Jethro, c'est le socialiste. Et Bilam, eh bien, c'est le décrétiste. Mais dans une typologie extérieure à la définition de l'identité hébraïque. Et voilà qu'apparaît un type d'homme, et donc aussi une manière d'être homme à l'échelle d'une société, qui est capable de ces trois préoccupations. Lorsque ces trois préoccupations sont exclusives l'une de l'autre, si vous voulez, en d'autres termes, lorsque celui qui vit la question de Job n'est pas capable de vivre celle de Bilam, ou n'est pas capable de vivre celle de Jethro, alors il n'y a pas de Torah. Il n'y a encore que, il n'est que, qu'une des dimensions de l'identité culturelle, il n'y a encore que philosophie. Je ne veux pas du tout dire qu'un juif, c'est tout simplement un existentialiste, plus un socialiste, plus un ecclésiastique. C'est pas du tout ça que je veux dire. Quoi. Mais je veux dire que l'identité de Moïse est capable de recevoir la Torah parce que son identité est capable non seulement de comprendre, de sympathiser, mais de porter la question de Job, la question de Bilam, la question de Jethro. Eh bien, je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important pour définir l'identité d'Israël en tant que nous prenons comme référence d'identification, en tant que nous prenons Moïse comme référence d'identification. L'homme est capable de ces trois dimensions de la sagesse, et donc de la prophétie correspondante, mais elle se trouve à l'extérieur d'Israël de façon exclusive. Et je crois qu'à chaque cycle de civilisation, on peut identifier qui est Jethro, qui est Job, qui est Bilam, mais ils sont, comment dire, isolés l'un de l'autre, ils sont extérieurs l'un à l'autre. En Moïse, ces trois questions, c'est la même, alors il reçoit la Torah. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai jamais trouvé de texte de base à l'explication que je vous donne, mais j'ai trouvé une confirmation indirecte par un tout autre midrash, qui parle de la naissance de Moïse. Vous savez que le pharaon était très préoccupé par un rêve qu'il avait, qu'il était en train de naître un enfant qui finirait par le détrôner. Et c'est la raison pour laquelle il avait décrété que tous les enfants qui naîtraient, tant chez les Égyptiens que chez les Hébreux, seraient mis à mort. Et c'est miraculeusement donc que Moïse a été sauvé. Et finalement, lorsque Moïse a été amené par la fille du pharaon, le palais, le Midrash nous dit qu'il y avait trois conseillers à la cour du pharaon. Et ces trois conseillers, c'était Job, Bilam et Jethro, comme par hasard. C'est énorme, mais comme cohérence, comme convergence. Mais en d'autres paroles, le Midrash nous dit ça. Il y avait trois conseillers à la cour du pharaon. C'est-à-dire, tout se passe comme si ces trois formes de la sagesse sont récapitulées là, quand Moïse naît, quand Israël apparaît. Eh bien, il y a autour de lui l'existentialisme, le socialisme, l'ecclésiastique, si vous voulez. Je vois très bien dans le temps contemporain ces trois formes d'exigence de la morale, et elles sont très différentes. D'accord ? Jean-Paul Sartre, oui, la chrétienté, le représentant de l'existentialisme, quelles que soient les nuances, si vous voulez, ils sont là, pendant qu'Israël est en train de naître. Alors je vous continue de vous dire, le pharaon a demandé leur avis à ces trois sages, que faut-il faire de cet enfant? Que faut-il faire de cet Israël qui est en train de naître? Et la réponse de chacun de ces trois sages a été très différente. Job n'a rien dit. Job n'a rien dit. Vous voyez, je sais que Jean-Paul Sartre a parlé d'Israël. En fait, je n'ai jamais trouvé qu'il lui dit quelque chose. Alors, Job n'a rien dit. Et le Midrash dit, ben, sa punition, c'est qu'il souffrira. Bilam a dit, oh, c'est dangereux, ça, il faut supprimer. Alors, sa punition n'était que lui a été supprimé. Bilam. Et puis, Jéthro a dit, si ça vient de Dieu, imagine un socialiste qui parle comme ça. Jéthro dit, si ça vient de Dieu, eh bien, on n'y peut rien, il faut protéger. Et Jéthro a été récompensé. Et effectivement, dit le Midrash, les descendants de Jéthro siégeront à la Knesset. Et vous voyez, de nouveau, ça joue aussi que le Midrash, comme il était. Dans la prophétie, lorsque finalement, jusqu'à cette génération de Moïse, il y a eu aussi prophétie dans toutes les sociétés. Effectivement, l'histoire l'atteste. À partir de ce temps-là, la prophétie, en tant que synthèse de ces trois dimensions dont je vous ai parlé, ce n'est pas l'oracle indépendant de la morale ou de la vie sociale, etc., mais la prophétie en tant que synthèse de ces trois dimensions ne se trouve plus que dans les prophètes d'Israël. Génération de la sortie d'Égypte, qui est une génération de la révélation, et donc une génération, un temps de révélation pour tous. Et il est normal que coexiste la révélation telle qu'elle est captée en Israël et telle qu'elle peut être captée dans ses dimensions singulières à l'extérieur d'Israël. Donc c'est normal qu'ils aient été contemporains. D'ailleurs, la Gemara dit aussi que j'ai trop visé au temps de Moïse. À chaque génération charnière, il y a un Jethro, il y a un Bilam, il y a un Job. Job disait autrement. À chaque génération, il y a un Bilam, il y a un Jethro, il y a un Job. Ils sont autour de nous. Je sais pas si on faisait une analyse spectrale, comme dirait monsieur. Non, mais si on faisait une analyse spectrale de la société française, nous verrions autour du problème d'Israël les opinions de Job, de Jethro et de Bilam contemporains. Au contenu de la religion selon Jethro, qui ne se fait qu'à l'âge de 40 ans.